dois vous avouer que dans une vie précédente, j'étais conseiller financier et j'ai passé plus de 30 ans à donner des conseils de planification à mes clients. Et ça m'a toujours frappé comment les gens, lorsqu'ils abordent la question de leur propre décès, disent toujours « si je meurs ». Moi, je leur disais « bien, c'est quand vous allez mourir ?» Parce que malheureusement, c'est inévitable. Et ça, les gens retardent la planification testamentaire parce qu'ils voient ça comme « peut-être que ça va arriver ». Ben non, ça va arriver, puis il faut être prêt. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Maître Joanie Lalonde-Picharski, qui est notaire. Et aujourd'hui, on va parler de fiducie. Fiducie pour les familles où il peut y avoir des besoins particuliers. Bonjour, madame.
Oui. Bonjour, M. Beauregard. Merci.
Alors, qu'est-ce qu'une fiducie testamentaire? À quoi ça sert? Décrivez-nous un peu un cas typique là, qui peut être une famille ou une cellule familiale où il va y avoir un besoin particulier là où la fiducie peut s'appliquer.
Oui, tout à fait. Bien, vous le disiez très bien. En fait, c'est que quand on fait notre testament, hein, moi, je pense que c'est un passage obligé à un moment donné de se poser la question qu'est-ce qu'on veut plus tard et comment on veut que ce soit géré au niveau de nos biens. Et ce document-là, c'est un testament. Et il arrive dans certaines familles qu'on a un enfant qui présente des besoins particuliers ou qui sera pas capable ou qui aura besoin d'aide, si on veut, pour gérer son héritage ou son budget plus tard. Alors, à ce moment-là, il y a deux façons de léguer nos biens. Au Québec, dans un testament, il y a en pleine propriété, c'est-à-dire voici, voilà ton héritage et fais-en ce que tu veux. Et il y a aussi de le faire par le biais d'une fiducie. Donc, c'est-à-dire qu'on va léguer les biens dans une fiducie, c'est comme un compte, si vous voulez, à part, un compte sécurisé dans lequel on va laisser cet argent-là pour un enfant qui aurait de la difficulté plus tard à gérer ses biens. Donc, par exemple, mes clients, par exemple, peuvent avoir un enfant qui vit avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, une problématique de santé mentale. Alors, au lieu de lui léguer tout ça directement, ben on lègue ça dans la fiducie et dans le testament, on vient nommer des personnes de confiance pour venir gérer cet argent-là pour notre enfant, pour son avenir.
Des personnes de confiance, il faut bien les choisir parce que et il faut qu'ils acceptent ce mandat parce que ça peut durer des années.
Oui, tout à fait. En fait, la fiducie, elle va durer autant que l'enfant vivra finalement parce que c'est pour sa vie durant. Donc, les personnes nommées qu'on appelle des fiduciaires. Les fiduciaires, oui, on les choisit en fonction de personnes de confiance, de personnes qui connaissent notre enfant, qui connaissent aussi nos valeurs. On peut nommer une personne, deux personnes, trois personnes, ça dépendra des cas. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on aborde, qu'on discute, qui se réfléchit aussi. C'est une façon de savoir, ben voici comment ça fonctionnera plus tard, qui s'en occupera. Alors ça rassure beaucoup le parent, surtout là, pour leur enfant plus tard, à savoir mais qui finalement va gérer tout ça, mais c'est pas laissé au hasard ou au gouvernement ou que sais-je, ça va vraiment être dans le testament que les parents vont pouvoir décider comment ça va se passer.
Mais est-ce qu'il existe quand même des balises pour éviter qu'il y ait des dérapages, que la personne que l'on croyait de confiance, par négligence, par ignorance ou malheureusement par malice, une fois qu'on est décédé, cette personne-là a l'empire sur les biens qu'on lègue à notre enfant qui a un besoin particulier? Est-ce qu'il y a quand même des balises légales pour encadrer l'action de cette personne?
Oui, alors tout dépend de ce qu'on inscrira au testament. Alors, souvent, on va pouvoir nommer non pas seulement une personne, mais plusieurs personnes. On peut demander à ce qu'il y ait des redditions de compte qui soient faites à certaines autres personnes. Donc, il y a à chaque situation, on met les balises qu'on veut et c'est quelque chose qu'on discute évidemment avec les parents.
Parce que la notion de la curatelle publique qui peut être encore... flotte dans les esprits du commun des mortels. Ça l'a changé puis ça l'a disparu, là.
Ah, en fait, ben, vous avez raison qu'il y a des changements qui vont être apportés. En fait, l'été dernier, il y a eu l'adoption d'une loi pour justement moderniser la loi sur le curateur public. Donc, cette loi-là, finalement, Présentement, on est en période, disons, transitoire.
D'accord.
Parce que la loi va entrer en vigueur seulement qu'en juin 2022.
Mm-hmm.
Et oui, il y aura l'abolition totale de la curatelle. Alors, on n'aura plus de curatelle ou de curateur au majeur. Là, je parle, on va encore avoir mm-hmm. le curateur public,
oui.
là, comprenez-moi. Mais pour des régimes de protection aux majeurs, après 18 ans, on va seulement y avoir des tutelles. Et les tutelles vont être modulées
mm-hmm.
selon le degré de protection que la personne a besoin d'avoir, soit pour l'administration de ses biens ou la protection de sa personne.
Au moment de la création de la fiducie, est-ce qu'il y a un critère pour que le gouvernement impose, à savoir cet enfant ou ce jeune adulte ou cet adulte qui dépend de moi comme parent, ou est-ce qu'il y a un critère, à savoir le degré de difficulté ou de déficience intellectuelle ou ainsi de suite, qui peut être utilisé pour une fiducie, ou on peut faire la fiducie de toute manière? Est-ce qu'il faut avoir le certificat qui donne droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées?
Mm-hmm. Très bonne question. Il y a deux volets à votre question. En fait, des fiducies, on peut en créer pour toutes sortes de cas. Alors,
mm-hmm.
le mot fiducie, c'est vraiment dans un but de protection. Alors, on peut créer des fiducies aussi pour un héritier qui serait très jeune. Par exemple, moi,
d'accord.
j'ai une fille de 5 ans. Bon,
mm-hmm.
elle n'est pas capable de gérer. Donc, je pourrais faire une fiducie pour ma fille de 5 ans parce que présentement, elle ne peut pas gérer. On pourrait faire une fiducie pour quelqu'un qui a des problèmes d'alcool, de toxicomanie. On peut faire des fiducies pour toutes sortes de critères. Alors, ça, il n'y a pas de ça dépend. C'est vraiment au niveau de la protection. Puis, en anglais, on appelle ça un trust. Hein? Puis,
d'accord.
Il y a beaucoup, les anglophones sont très friands des trusts et des protections pour protéger des fois aussi l'argent pour que ça reste dans la famille.
Mm-hmm.
Bref, ça c'est une chose. Pour ce qui est de la fiducie comme telle, on peut la faire quand on veut.
Mm-hmm.
Le deuxième volet de la question, là, je m'en allais dans autre chose, mais là, votre deuxième volet, vous me disiez...
Le crédit d'impôt pour personnes handicapées,
oui,
ça intervient
voilà.
aussi dans la construction de la planification.
Alors, pour le CIPH, le crédit d'impôt pour personnes handicapées, je vous dirais en fait que c'est comme un plus, si on veut, parce qu'on peut créer une fiducie sans avoir le crédit d'impôt,
mm-hmm.
mais si on a le crédit d'impôt en plus, la fiducie, en fait, va se qualifier comme fiducie pour admissible pour personnes handicapées,
ah.
et ça représente à ce moment-là une fiducie qui va payer moins d'impôts.
Ah, d'accord. Parce que c'est la question, c'était si, par exemple, il y a une somme importante qui est versée dans la fiducie,
mm-hmm.
c'est pendant que l'enfant ou le jeune adulte poursuit son existence, cette somme-là de travail est placée de façon diligente et responsable par le fiduciaire. Donc, ça crée des revenus qui servent à voir au bien-être de la personne qui est bénéficiaire.
Absolument.
Mais l'impôt passe un peu là-dessus aussi.
Oui, ben comme tout le monde,
voilà.
on n'y échappe pas. Par contre, comme je vous disais, quand on a le crédit d'impôt, on bénéficie du taux d'impôt le plus bas
d'accord.
au Canada. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi à considérer. Puis il y a autre chose aussi qu'on peut faire dans le testament pour favoriser aussi les économies d'impôt. Par exemple, des transferts, par exemple, du parent vers le REEI de l'enfant, qui est le régime enregistré d'épargne invalidité.
Mm-hmm.
Et aussi, dans la jurisprudence récente, dans les jugements récents, et au Québec et partout au Canada, on fait aussi une distinction entre la fiducie qui est vraiment au bénéfice de notre enfant, et à côté de ça, notre enfant peut continuer de recevoir aussi des prestations de solidarité sociale
ah oui.
Ou gouvernementale, parce que la fiducie n'est pas dans son compte de banque à lui qui gère et où mm-hmm. il reçoit ses prestations. Donc, c'est deux choses différentes aussi. Donc, ça, c'est un autre avantage aussi quand on a un bénéficiaire, un enfant ici, qui a un crédit d'impôt pour personnes handicapées et qui reçoit aussi des prestations de solidarité sociale.
Les revenus ou la dotation faite par la fiducie ne viendra pas nuire à son statut vis-à-vis de l'aide sociale. L'enfant va quand même avoir droit au support que le gouvernement lui accorde.
Tout dépend de comment la fiducie est faite dans le testament.
Okay.
Alors, c'est vraiment ça l'enjeu ici. Il faut vraiment, vraiment expressément que la fiducie respecte tous les critères.
Mm-hmm.
Il faut qu'elle soit discrétionnaire, il faut qu'elle serve à combler des besoins autre que les besoins de base. Donc là, je vous dis un petit peu les critères. Donc, c'est très, très simple. On ne peut pas qualifier comme ça une fiducie, n'importe quelle fiducie, de n'importe quelle façon. Il faut vraiment, vraiment aller voir un notaire qui se spécialise dans cette branche-là et qui connaît ce qu'il y en est, qui connaît les lois aussi entourant les personnes en situation de handicap pour vraiment faire en sorte que la fiducie se qualifie.
D'accord. Est-ce que les gens parfois sont rebutés par l'exercice parce qu'elle a l'air compliquée, il faut faire confiance à un professionnel ou une professionnelle, il doit avoir des honoraires, des coûts, il faut trouver la bonne personne qui va être fiduciaire. On se dit, bah, si je meurs, mais encore une fois, c'est comme on nie la réalité, là, puis on se dit, je vais faire ça la semaine prochaine parce que j'ai d'autres choses aujourd'hui.
Ah, oh, ben oui, puis je comprends bien. On a tellement de choses à faire dans notre quotidien que, bon, souvent, cette chose-là sur notre to-do list, là, ça peut paraître. Là, bon, je dirais que ce que je dis, moi, aux parents, aux gens qui viennent nous voir souvent, c'est tout ça, c'est un processus. OK? Puis on le fait quand on est prêt. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, ils pensent. Les gens, c'est dans leur esprit, là, ça vient toujours comme une petite voix. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est pas réglé. Puis il y a beaucoup d'anxiété aussi qui est vécue par les parents pour l'avenir. Puis on le comprend. Et commencer la démarche, ça prend, je pense, un pas de courage. Mais une fois que le processus est enclenché et qu'on a choisi le bon professionnel, je pense que c'est au professionnel d'accompagner le parent, de lui rendre la vie facile, de lui dire, ben voici les questions, voici les choses. Le professionnel s'occupe des choses compliquées. Le parent n'a qu'à répondre, qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir, pour votre enfant? Après ça, le professionnel met ça en beaux mots juridiques. Mm-hmm. Et quand on finit par signer et faire le processus, ben les parents disent, ben, c'est une tonne de briques qui me tombe sur les épaules. Pourquoi j'ai attendu si longtemps? Bon, mais je pense que c'est vraiment d'être prêt. Pour question budget, souvent, ben, les gens le savent que c'est quelque chose à faire de toute façon et on le fait une fois et on le fait bien et on le fait pour que tout ça dure des années et des années.
Parce que de toute façon, l'alternative de ne rien faire et de mourir subitement risque de placer notre enfant dans une situation vraiment difficile, pénible, avec du balotage, puis ça risque vraiment de déraper et la qualité de vie pour le reste de ses jours va s'en ressentir grandement.
Exactement. Exactement, oui, puis j'ai vu malheureusement, on en voit toutes sortes d'histoires, hein. Quand on est notaire, j'ai vu des histoires d'horreur, j'ai vu des histoires où il y a des gens qui disent « Ah, oh, j'aurais dû », bon, alors on est mieux de prévenir que de guérir. Puis je vous dirais aussi que quand l'entourage sait que tout est organisé, que tout est en place, que tout est bien ficelé, les gens sont plus à même de dire oui. Versus, ouf, tout a l'air compliqué, c'est un peu chaotique, les gens vont pas vouloir s'en mêler. Alors, c'est aussi de laisser quelque chose d'organiser et de vraiment faire en sorte que les gens soient guidés, qu'il y ait un bon document. Ça aide aussi à faire en sorte qu'il y ait une relève pour notre enfant plus tard, puisqu'on veut pour plus tard, c'est son bien-être, son épanouissement, son bonheur. Alors, je pense que de faire la démarche, il y a quelque chose un petit peu, oui, au début de rébarbatif et off, on mettra ça un jour, mais une fois les gens sont contents.
Il faut le faire, puis on se sent mieux après, parce que c'est une angoisse qui poursuit toujours les parents d'un enfant qui a des besoins spéciaux. Qu'est-ce qui va arriver
Absolument.
Si on n'y est plus?
Absolument.
Ben, Maître Joanie Lalonde-Picharski, je vous remercie beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui de fiducie testamentaire pour aider les familles à perpétuer le cocon familial au-delà du décès. Merci.
C'est bien dit. Merci à vous. Bonjour.